Chers amis, bonjour. Nous sommes donc ce lundi 26 avril pour la 9e leçon sur ce cours consacré à un parcours dans les écrits de Saint Paul. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions terminé un survol, mais en approfondissant quelques passages, un survol de la deuxième lettre aux Corinthiens. Lettre spécifique en ce sens que le sujet du ministère apostolique est l'objet principal de cette lettre, parce que c'est dans un contexte où, à ce moment-là, les relations de Paul avec la communauté de Corinthe étaient un peu difficiles, et Paul clarifie les choses et évoque notamment le fait que les tribulations du ministère apostolique font partie de ce service. Nous avions approfondi quelques passages, notamment après l'adresse salutation, la bénédiction qui vient tout de suite. La différence d'emblée d'une action de grâce est plutôt une bénédiction. Vous vous souvenez qu'elle montait vers Dieu le Père et le louait de ce qu'il apporte son réconfort, ce Père des compassions, un réconfort qui nous advient dans le Christ. C'était le deuxième moment de cette bénédiction, après ce moment théologique tourné vers Dieu le Père, ce moment christologique, et pour que nous soyons nous-mêmes, pour que l'apôtre soit lui-même capable de réconforter tous ceux qui en ont besoin, et les réconforter dans les tribulations d'un certain type, les tribulations spécialement liées au ministère apostolique et à l'annonce de l'Évangile. Telle était la belle bénédiction initiale, donc à l'enseigne du réconfort que nous sommes appelés à recevoir de Dieu pour le transmettre aux autres dans le Christ. Puis nous avions approfondi, ceci donc pour bref rappel simplement, un beau passage du chapitre 2, et puis qui commence au chapitre 2, puis qui se déploie dans le chapitre 3 et va jusqu'au chapitre 4, le verset 7. Et vous vous souvenez que Paul mettait en œuvre une belle maîtrise des arrière-fonds scripturaires auxquels il se référait. Et notamment, il y avait l'arrière-fond de Jérémie, qui introduisait le vocabulaire d'alliance nouvelle, auquel Paul, dans le même passage, fait correspondre l'ancienne alliance, et de manière significative, il l'utilise déjà au sens des écrits du Premier Testament. Et dans ce rapport entre la nouvelle alliance, déjà évoquée par Jérémie, et puis l'arrière-fond du prophète Ézéchiel, il faisait valoir, en étant parti d'Exode 34, cet épisode où un voile était posé sur le visage de Moïse, il faisait comprendre que désormais, dans le temps de l'Alliance Nouvelle, le voile qui demeure encore sous la compréhension des Écritures va être enlevé, aboli, pour que nous puissions, en recevant la loi inscrite désormais dans nos cœurs, plus simplement sous les tables de pierre, mais inscrite par l'Esprit, et bien que nous puissions recevoir pleinement la révélation de Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu. Et là, il y avait en finale une référence à Genèse, parfaite image du Père. Il nous rend, il nous a cette image à laquelle nous avons nous-mêmes été créés. Donc, ce jeu très élaboré de rapport aux Écritures, où Paul, dans ce passage, faisait valoir précisément et Jérémie, et Ézéchiel, et l'arrière-fond d'Exode, et le début de la Genèse. Et nous avions vu ainsi qu'alors des thèmes ou des vocables réintervenaient et appliquaient à des niveaux différents, puisque le visage était tantôt celui de Moïse, illuminé par la face de sa rencontre avec Dieu, et qu'il devait voiler pour ne pas éblouir les Israélites à son retour, le visage de Moïse, le visage du croyant lui-même, appelé à la gloire qui resplendit sur le visage du Christ lui-même. De même, pour le vocable, le thème de l'image, nous serons restaurés à l'image du Christ qui lui-même est parfaite image de Dieu et nous introduit à sa gloire. Et c'est là un troisième vocable sur lequel j'avais insisté, la gloire étant tantôt celle qui resplendit justement sur le visage de Moïse, celle à laquelle est appelé le croyant, mais comme une participation à la gloire du Christ lui-même qui aboutit pleinement, qui reflète pleinement la gloire de Dieu. Ça, c'était au début du chapitre 4. Voilà pour un rappel de ligne de cohérence de ce beau passage dans son rapport aux Écritures, d'une part, et à partir des termes clés que l'Écriture lui-même lui donne, la capacité qu'a Paul de les appliquer à différents niveaux et de nous faire entrer par la médiation du Christ dans la profondeur ainsi des Écritures. Nous avions donc vu la bénédiction initiale, nous avions approfondi ce beau passage que je viens d'évoquer, et enfin nous avions prêté attention à la finale, le chapitre 5, les versets 17 à 21, qui étaient centrés sur la réconciliation avec Dieu, et en voyant comment ce passage mettait en œuvre de nouveau et en rapport, si je puis dire, cinq personnages, Dieu le Père, la source de tout salut, et avec à partir duquel nous sommes réconciliés, c'est bien Dieu qui dans le Christ nous réconciliait. Ensuite, celui par l'offrande duquel cette grâce de réconciliation, de pardon nous rejoint, le Christ. Puis tous ceux qui ont la charge de servir cette œuvre de réconciliation, il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Bien sûr, ceux auxquels Paul s'adresse, qui sont les destinataires de cette réconciliation, qui vient de Dieu par l'offrande du Christ et par le ministère apostolique. Et enfin, les destinataires les plus élargis, à savoir l'ensemble des hommes susceptibles d'accueillir un tel don dans le Christ. Dieu réconcilie le monde avec lui. Donc ce beau passage vers la fin de la lettre sur le ministère de la réconciliation au service duquel est mis l'apôtre. Voilà pour un bref rappel de quelques passages forts de cette deuxième lettre aux Corinthiens dont nous avions terminé la lecture. Puis nous avions commencé à introduire et à lire déjà un passage de la lettre aux Philippiens, mais que nous allons reparcourir plus systématiquement aujourd'hui. Vous vous souvenez, c'était les feuilles que je vous avais données, numérotées 34 et suivantes, qui concernaient la lettre aux Philippiens. Vous vous souvenez qu'on avait pu identifier comme un moment très probable de sa rédaction le séjour de Paul à Éphèse lors de son troisième voyage, la communauté de Philippe ayant été rencontrée, fondée là au nord de la Grèce, de la Macédoine, lors de son deuxième voyage, mais c'est d'Éphèse, lors de son troisième voyage, qu'il écrit aux Philippiens, et précisément, sans doute, vers l'an 55-56, et dans un contexte où Paul parle volontiers de ses liens. Il a dû connaître une captivité à Éphèse. C'est un des aspects de la lettre qui l'a fait assimiler parfois au groupe des lettres dites de captivité. Mais nous l'avons saisi à l'intérieur du parcours que nous sommes en train de faire de ce qu'on appelle les grandes lettres, les grandes épîtres. 1 et 2 Corinthiens, nous l'avons vu, et Philippiens, puis nous poursuivrons par Galates et Romains. Tel était un peu le contexte de rédaction de la lettre. On avait donné divers éléments qui plaidaient en faveur de cette époque et de ce lieu de rédaction. Et par exemple, je terminais dans les notes de la page 35 en soulignant que du point de vue de l'évocation du jour du Christ, du jour du Seigneur, de l'insistance sur ce jour, eh bien, nous sommes directement dans la foulée d'une thématique déjà déclinée dans la première, la deuxième aux Thessaloniciens et dans la première aux Corinthiens. Donc, pour résumer cette mise en contexte, Paul aurait fondé l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire, vers l'an 50, son premier passage en Europe, si l'on peut dire. Il aurait écrit aux Philippiens d'Éphèse, quelques années plus tard, 55-56 peut-être, et justement dans un contexte plus proche des premières lettres, ou même de la première aux Corinthiens, plus proche de ces lettres-là que de Colossiens et Éphésiens, qui sont sans doute un peu plus tardives. Et il aurait revu les Philippiens dans la suite de ce troisième voyage, puisque avant de revenir de ce troisième voyage d'Éphèse, il va refaire un parcours aller-retour en Grèce pour revisiter les communautés chrétiennes qu'il y a fondées. Puis, j'avais donné la page 36 de la page qui présente sommairement les divers sujets abordés dans Philippiens. Avec au départ l'adresse, la salutation, l'action de grâce, la prière, nous allons relire tout cela. Et puis, il va y avoir un temps plus narratif où Paul donne des nouvelles personnelles, rappelle le contexte dans lequel il se trouve, les épreuves traversées, mais déjà prodigue des encouragements. Et il va poursuivre la lettre dans une tonalité où l'élément exhortatif, parénétique, sera important, même s'il y a le nouveau passage, comme l'hymne aux Philippiens, que nous avons lu une première fois, sur laquelle nous reviendrons, qui déploie une belle ampleur spirituelle et dogmatique, si je puis dire, plus doctrinale en même temps. J'aborde sans plus tarder le texte même de la lettre, et je lis, je vous invite à voir le texte de la lettre aux Philippiens sous les yeux, dans votre Bible, votre Nouveau Testament. J'aborde d'emblée l'adresse et la salutation. Paul et Timothée, esclaves de Christ Jésus, traduit parfois serviteur, esclaves de Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, ainsi qu'aux épiscopes et diacres, grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Remarque sur cette brève adresse et salutation. Donc, c'est la lettre est de la part de Paul et Timothée, qualifié d'esclave, doulos. C'est assez rare. On va retrouver cela dans la lettre à Tite. C'est assez rare dans une adresse. Mais dans l'hymne aux Philippiens, nous retrouverons ce terme, désignant le Christ. Au chapitre 2, au verset 7, il s'est anéanti, prenant forme d'esclave, devenant semblable aux hommes. Donc en utilisant ce terme pour se qualifier, lui et Timothée, Paul utilise déjà un terme dont le modèle par excellence se trouve dans le Christ, on comprendra plus tard. Paul et Timothée, esclaves de Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus, vous remarquerez l'insistance christologique de ces quelques versets, esclaves de Christ Jésus, tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, et bien sûr dans l'origine du salut classique de grâce et de paix, Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous les saints qui sont en Christ Jésus à Philippe, ainsi qu'aux épiscopes et aux diacres. Ça c'est un vocabulaire qui reviendra dans les lettres pastorales à Timothée et Tite. C'est une manière de désigner par un binôme, je dirais, l'ensemble des autorités de la communauté. Épiscope est le terme qui donnera évêque, bien sûr, épiscopat. Diacre, diaconos, c'est bien connu. Mais il y a un troisième terme qui interviendra, c'est presbyteros, les anciens, qui va donner prêtre. Et il semble que dans un premier temps, la triade que nous connaissons, qui est un peu, qui s'est précisée ultérieurement, évêque, prêtre, diacre, n'est pas encore en place de manière aussi claire. Et donc, une manière de désigner les autorités, on retrouvera ça dans les pastorales, c'est de faire valoir un binôme où il y a toujours diacre, mais c'est parfois épiscope et diacre, parfois ancien et diacre, presbytéro et diacre. Toujours est-il que c'est une manière ici, un peu singulière, de faire valoir comment l'adresse, la lettre s'adresse non seulement à la communauté désignée par le vocable les saints, mais aussi à ceux qui ont plus de charges de responsabilité, désignés ici par ce binôme épiscope et diacre. Après cette adresse salutation, l'action de grâce, comme classiquement, et, comme classiquement, elle est liée à la prière et à la mémoire. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. Toujours dans toutes mes prières et pour vous tous, c'est avec joie que je prie. À cause de la part que vous avez prise à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, bien persuadé de ceci, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il n'est que juste pour moi de penser ainsi de vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur. Vous qui, dans mes liens, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous part à ma grâce. Oui, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous ardemment de la tendresse du Christ Jésus. Et ce pourquoi je prie, c'est afin que votre amour abonde encore de plus en plus, en connaissance et en toute clairvoyance, pour que, discernant le meilleur, vous soyez purs et inattaquables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ à la gloire et louange de Dieu. Voilà cette action de grâce liée à la prière et la mémoire. Vous remarquez d'abord, concernant ces 8 versets, une forme d'intensité avec l'adjectif « tout » ou un équivalent. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire, toujours, dans toutes mes prières, pour vous tous. » Ou au verset 7, « Il est juste pour moi de penser ainsi de vous tous que je chéris. » À la fin du verset, « Vous avez tous part à ma grâce. » Puis au verset 8, « Je vous chéris tous ardemment. » Donc il y a comme un désir qui s'exprime en termes un peu de plénitude, de totalité. Puis, nous marquons au passage deux fois la mention, cette perspective qui, je le disais, est encore dans la foulée des lettres aux Thessaloniciens ou de la première aux Corinthiens, le jour du Seigneur, au verset 6. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Et de même, au verset 10, que vous soyez purs et inattaquables pour le jour du Christ. Cet horizon de ce jour du Christ qui donne sens à la vie présente. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement. Hein, quand j'étais enfant, dans le bulletin, il était parfois mis en latin, perge ut instituisti, continue comme tu as commencé. Et Paul le dit ici, mais celui qui a commencé l'œuvre, c'est Dieu. Et c'est lui qui en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Je ferme cette parenthèse. Je reviens au début, je rends grâce à chaque fois lorsque je fais mémoire de vous. Et c'est avec joie que je prie. Au verset 4. C'est avec joie que je prie. Un thème qui va être bien présent dans la lettre, le thème de la joie, est annoncé dès ici. Je prie avec joie. Alors il commence par donner les motifs de cette joie. Pourquoi ? À cause de la part que vous avez prise à l'Évangile. La lettre aux Philippiens est une lettre très chaleureuse, très cordiale, notamment parce qu'on sent la symbiose, l'unité de la concorde de cœur entre l'apôtre et ses interlocuteurs, non seulement du point de vue des dispositions, mais de la part active qu'ils ont prise à son ministère. Ne fût-ce qu'en subvenant à ses besoins, comme il le rappellera plus loin dans la lettre. La part que vous avez prise depuis le premier jour jusqu'à maintenant. À l'Évangile, un terme important ici, au verset 5, l'annonce de la bonne nouvelle. Il revient au verset 7. Je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans mes liens, comme la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous part à ma grâce. Et puis on va le retrouver souvent décliné dans la suite, au verset 12, ce qui m'arrive a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Verset 14, la hardiesse pour annoncer sans cesse la parole de Dieu, ou bien encore le terme d'Évangile lui-même au verset 16, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Au verset 27, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Etc. Donc cette insistance sur l'annonce de la bonne nouvelle, sur ce terme même d'évangile, dès ici, depuis le premier jour, et Le Seigneur en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il n'est que juste pour moi de penser ainsi de vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur. Ça dit quand même quelque chose de la tonalité de la lettre. C'est vrai que dans Galates, c'est un peu plus rude. Vous qui dans mes liens, eh bien, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Donc on voit que Paul ne cache pas la situation de captivité qui est la sienne, qu'il a traversée, et que l'Évangile demande à être défendu, affermi. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous ardemment de la tendresse de Jésus-Christ. De nouveau, des expressions très chaleureuses, très affectives. Je vous chéris de la tendresse de Christ Jésus. La tendresse, ce qu'il y a derrière comme mot, c'est splanknos, c'est les entrailles même de tendresse. Le mot biblique appliqué à Dieu pour le qualifier Dieu de tendresse. La tendresse de Christ Jésus. On sent la vive affectivité de Paul, mais elle est toujours ressaisie dans le Christ. Dans le Christ. Ce n'est pas simplement son penchant naturel. D'autant plus que Paul pouvait faire preuve de grande tendresse, mais Paul pouvait aussi avoir du caractère et être rude. Et donc si la tendresse se développe dans son ministère, c'est aussi qu'il la reçoit en partage de Christ Jésus. Après avoir donné le motif de sa joie, c'est que l'Évangile tient bon, va s'affermir jusqu'à la fin, je vous porte dans mon cœur, Paul précise ce pourquoi il prie. Vous vous souvenez, au verset 4, il y avait deux termes importants. C'est avec joie que je prie. Il a donné les raisons de sa joie. Maintenant, il va dire pourquoi il prie. Ce pourquoi je prie, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance, en toute clairvoyance, pour que discernant le meilleur, vous soyez purs et inattaquables pour le jour du Christ. Vous sentez au moins deux accents, le désir souvent présent en Paul d'un meilleur, d'un plus, d'un magis. Que votre amour abonde de plus en plus. Que vous discerniez le meilleur, pas simplement le bon, mais le meilleur. Et puis un autre accent, c'est que vous grandissiez dans l'amour, mais aussi la dimension d'une lucidité, d'une connaissance, toute connaissance et clairvoyance, et il s'agit de discerner le meilleur. Ça ne pose pas toujours de manière évidente. Il faut faire un effort pour en accueillir la connaissance. Et qu'ainsi vous soyez pur et inattaquable pour le jour du Christ. Inattaquable laisse toujours voir en arrière-fond le souci qu'a Paul de défendre les chrétiens, en tout cas que les chrétiens édifient ceux du dehors. qu'on ne puisse pas le reprocher trop de faiblesse. Pour que, rempli du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ. Ça, c'est un terme important, le fruit de justice. Paul introduit là un terme sur lequel il va revenir et qui sera au cœur de Galates et de Romains, rempli d'un fruit de justice. Est-ce que c'est simplement une justice d'équité sociale? On va voir que c'est plus profond, la justice qui vient de Dieu. D'ailleurs, il le précise, qui nous vient par Jésus-Christ. Et il termine, à la gloire et louange de Dieu, comme une petite formule doxologique, on peut dire, pour terminer cette action de grâce, mais qui déjà, vous voyez, est belle et riche. Puis Paul commence à une narration. Il raconte, il reprend l'histoire. « Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'arrive a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, de sorte qu'il est devenu notoire dans tout le prétoire et pour tous les autres que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères, à qui mes liens ont donné confiance dans le Seigneur, redoublent de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » D'aucuns, certes, proclament le Christ par envie et querelle, mais d'autres avec bonne intention. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Tandis que les autres, c'est par esprit de dispute qu'ils annoncent le Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, pensant susciter de l'affliction à mes liens. Mais quoi ? Il reste que de toute manière, prétexte ou vérité, Christ est annoncé. Et de cela, je me réjouis. Et je me réjouirai encore, car je sais que cela aboutira pour moi au salut, par votre prière et le secours de l'Esprit de Christ, de Jésus-Christ. Selon ma vive attente et mon espoir, que je n'éprouverai aucune honte, mais qu'en toute assurance, maintenant comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Arrête là pour un moment. Paul, donc, dans ce passage, en donnant de ses nouvelles, manifeste son souci de l'Évangile. Ce qui m'arrive, on comprend que c'est une situation difficile, dans les liens, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, et je suis là pour la défense de l'Évangile. Et Christ est annoncé, c'est cela qui lui importe. La mention de ces liens, bien sûr, vous l'avez remarqué au passage, par trois fois, au verset 13, 14, 17. Et puis, un discernement qui se fait entre ceux qui annoncent l'Évangile fortifié par l'exemple de Paul lui-même, redouble de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu, un discernement entre ceux-là et ceux qui annoncent l'Évangile, mais dans une intention qui n'est pas toujours pleinement droite. Peut-être qu'il y a un certain esprit de jalousie par rapport à Paul. D'aucuns, certes, proclament le Christ par envie et querelle, mais d'autres avec bonne intention. Je vais te voir le terme, c'est eudokia. C'est un terme qu'on peut parfois rendre par bienveillance. Je fais une parenthèse, comme le vocabulaire de la bienveillance est fort déployé ces temps-ci, je me suis demandé, tiens, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il en est? Le mot ne revient pas très souvent, mais quand même. Et quel serait le mot qui correspond à bienveillance? Je crois que c'est eudokia, bonne disposition, positive. Saint Ignace dirait un présupposé favorable, eudokia. Paix aux hommes, objet de sa bienveillance, c'est ce terme-là par exemple. Et il intervient ici, d'autres annoncent heureusement l'Évangile avec justement cette bonne disposition, eudokia, cette bienveillance, un terme qui va revenir, alors même qu'il est assez rare dans le Nouveau Testament, qui va revenir une deuxième fois au chapitre 2, au verset 13. Lorsqu'il dira, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir, eudokia. Pour ça, son bon plaisir, sa bienveillance. Donc, je ferme cette parenthèse. Ceux-ci qui annoncent l'Évangile avec bonne intention, eudokia, agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Tandis que les autres, parfois pour des motifs moins purs, des motifs qui ne sont pas purs. Mais quoi? Et Paul termine par là. Il dit, même s'il y a parfois des intentions mêlées, eh bien, le résultat, c'est que d'une manière ou d'une autre, que ce soit un peu par vantardise ou par esprit de jalousie ou dans une intention plus pure, le Christ est annoncé, c'est cela qui importe. Et dit Paul, je m'en réjouis. C'est la deuxième mention de la joie. Lorsqu'on voit dans la traduction aussi, je me réjouis, c'est toujours le verbe de même racine, kairo. Je suis dans la joie littéralement, que le substantif joie. Je me réjouis et je me réjouirai encore, car je sais que cela aboutira pour moi au salut. Au salut, cette perspective, un mot là, important, qui va être repris par exemple au verset 28. Ne vous laissez pas effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de par Dieu. Perspective du salut qui est à l'horizon de l'annonce du Christ. Il est annoncé, bien sûr, pour le salut des hommes. Et au passage, Paul a parlé de sa prière, en disant « ma prière pour vous », etc. Et ici, il les invite à la prière, au verset 19. « Je sais que cela aboutira pour moi au salut par votre prière. » Il compte sur les prières des Philippiens et le secours de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus-Christ. Puis il termine en disant « en toute assurance, maintenant et toujours, eh bien, Christ sera magnifié dans mon corps. Reviendra, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. » Quand même cette audace, ce courage de Paul d'envisager la mort, non pas avec crainte et tremblement, mais mourir est un gain. Et il développe cela. Donc, il entrevoit positivement la perspective de mourir pour être avec le Christ, il va le dire. Mais, je poursuis, si vivre dans la chair fait fructifier mon œuvre, il a parlé précédemment d'un fruit de justice, il revient avec ce vocabulaire. Si vivre dans la chair fait fructifier mon œuvre, je ne sais que choisir. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ, car c'est de beaucoup le meilleur. Mais rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. Et dans cette conviction, je sais que je demeurerai et que je resterai près de vous, pour vous tous, pour votre progrès et la joie de votre foi, afin que vous ayez en moi un abondant sujet de vous vanter en Christ Jésus par mon retour auprès de vous. Parce que je reviendrai auprès de vous, dit son intention. Mon retour, il utilise le terme de parousie. Mon retour auprès de vous. On voit que Paul dit qu'il est prêt à mourir, et même qu'il le désire, mais qu'il sent bien qu'il est, pour le moment, plus profitable de rester sur cette terre, pour le bien des Philippiens. Si vivre dans la chair fait fructifier mon œuvre, je ne sais que choisir. Et finalement, rester dans la chair est plus nécessaire. Fin du verset 24. À cause de vous. Et pour cela, pour faire aboutir votre progrès et votre joie. Ça manifeste quand même une belle indifférence de Paul. Et de dire, je serais prêt à aller vers le Christ, parce qu'on a au passage une très belle définition de la résurrection. J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ. La vie éternelle, c'est être avec lui pour toujours. C'est de beaucoup le meilleur. Mais, en même temps, j'accepte de rester sur cette terre. Petite parenthèse, c'est un texte qui me sollicite fort, parce qu'il y a quelques heures, il y a presque 20 ans maintenant, il y a eu un solide accident de voiture avec le père Gervais, dans lequel on aurait pu rester. Et miraculeusement, j'utilise mes mots, miraculeusement, on est sortis tous les deux sans une égratignure. Et le lendemain, le texte qu'on lisait, c'était celui-là. Alors ça, on n'oublie pas trop. Je ferme la parenthèse. Mais ici, on voit que, et je me suis dit, en le relisant, je n'ai pas encore l'indifférence de Paul. Je suis pressé de m'en aller pour être avec le Christ, mais encore une purification à vivre. Mais c'est beau de voir que Paul a cette foi, cette transparence dans la foi qui lui fait désirer aller à la rencontre du Christ. Je poursuis. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Il a parlé de l'annonce de l'évangile et maintenant, il commence des exhortations. Et on le voit à l'usage d'impératifs. Conduisez-vous, etc., des formules de ce type. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Que je vienne vous voir, ou qu'absent j'entende parler de vous, je veux apprendre que vous tenez bon dans un même esprit, luttant d'une seule et même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de par Dieu. Car il vous a été fait grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, engagé dans le même combat où vous m'avez vu et où maintenant vous entendez dire que je suis. Vous voyez cette réciprocité, souvent mise en œuvre, au verset 27, qu'absent j'entends parler de vous, et au verset 30, c'est l'inverse, où maintenant vous entendez que je suis. Cette situation. Eh bien, que je sois déjà capable de venir vous voir, ou bien que demeurant à distance, j'entende seulement parler de vous, eh bien, je veux avoir des nouvelles comme quoi il y a unanimité parmi vous. Vous tenez bon, fidélité, et dans un même esprit, luttant d'une seule et même âme pour la foi. Il commence à insister sur la concorde, la communion dans la communauté. Il va y revenir dans un instant. Pour la foi de l'Évangile. Et sans vous laisser effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Vous vous souvenez dans la première aux Corinthiens, vers le début de la lettre, la foi en la croix du Christ, enfin, la considération de la croix du Christ comme objet de faiblesse et en réalité puissance de Dieu, comme apparente folie et en réalité sagesse de Dieu, eh bien pour ceux qui n'y croient pas, disait Paul, c'est objet de perdition. Et pour ceux qui y croient, c'est objet de salut. Il reprend ce binôme. Perdition ou le salut. Car il vous a été fait grâce, non seulement de croire, mais encore de souffrir. Recevoir les tribulations, les souffrances apostoliques, non pas simplement comme un obstacle, mais comme une grâce même de Dieu. En étant en communion avec l'apôtre et avec Christ, encore de souffrir pour lui, engager dans le même combat où vous m'avez vu et où vous entendez dire que je suis. Donc ne pas se laisser effrayer par les tribulations, mais les vivre unis à l'apôtre et en les offrant pour Christ. Puis, ce qui va nous acheminer à cette belle hymne aux Philippiens, comme on dit. Nous avons commencé à lire la fois passée. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque réconfort d'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse de compassion, mettez le comble à ma joie en ayant même pensée, même amour, une seule âme, une seule pensée. Ne faites rien par esprit de dispute ni par vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi-même. Ne recherchez pas chacun votre propre intérêt, mais bien celui des autres. Donc l'invitation à la communion, je reprends ce terme du premier verset, koinonia, terme important, s'il y a quelques communions, eh bien, que l'humilité soit le ciment de la concorde dans la communauté. C'est ça qui est dit substantiellement. Ne pas chercher la vaine gloire, mais estimer les autres supérieurs à soi-même, eh bien, c'est cela qui mettra le comble à la joie de Paul, de voir cette concorde par l'humilité, le respect d'autrui qui règne dans la communauté. Et puis le verset 5 qui sert de charnière. Ayez entre vous la pensée même qui fut en Christ Jésus. C'est-à-dire que cette disposition d'humilité, d'effacement, eh bien Paul va la donner à voir dans son parfait modèle qu'est le Christ. Et donc l'hymne aux Philippiens vient à l'appui de ce à quoi Paul exhorte les Philippiens. Il y a le moment exhortatif et puis une hymne qui s'élève pour montrer le modèle de cette disposition à laquelle il invite les Philippiens. Je vous invite à reprendre un instant le texte tel que je vous l'avais donné, disposé sur la page 37. Laisse bien voir la construction. Nous l'avons déjà lu une fois, mais c'était un peu rapidement à la fin du cours précédent. Je reprends rapidement. Il vient d'évoquer la grâce qui a été faite, non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir pour lui. Et il va considérer dans l'hymne cet abaissement jusqu'à la souffrance, et n'importe laquelle, la mort de la croix. Je viens de lire les 4 premiers versets que vous avez sur votre feuille, et vous voyez les oppositions, non pas ceci, mais cela, dont Paul est familier pour articuler sa pensée. Rien selon dispute, rien selon vaine gloire, mais au contraire, par pensée d'abaissement, d'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Non pas cherchant chacun les choses de soi-même, mais les choses des autres. Puis, je l'ai encadré, le verset charnier, pensez entre vous cela même qui est aussi dans le Christ Jésus. Et vous avez dit, le verbe utilisé pour qui est rendu par penser, c'est un verbe phronéo, ça veut dire ayez une disposition. Ça désigne la disposition de tous les. Ayez entre vous les dispositions, si je devais le traduire autrement, que aussi vous voyez dans le Christ Jésus, et là-dessus on passe à l'hymne. Lui qui, en forme de Dieu subsistant, n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais au contraire, lui-même se vida Il avait dit, rien par vie de gloire, littéralement, et bien lui, précisément, il s'est vidé de la gloire qui était la sienne, aux yeux. Vous savez que vidé, c'est kéno, et ça a donné le vocabulaire de la kénose, qui est un terme technique à partir du grec, kéno. La kéno, ça veut dire l'abaissement, le fait de se vider complètement de toute prétention autosuffisante. Lui-même, il se vida, prenant forme d'esclave. On a vu que Paul et Timothée s'étaient qualifiés de serviteurs, c'était le même terme, esclave de Christ Jésus. Eh bien, lui-même s'est fait esclave. En quoi ? En devenu, en similitude d'homme. Devenu, c'est un verbe qui est parfois utilisé dans le Nouveau Testament pour signifier que dans l'histoire, si je puis dire, à partir du moment où il entre dans l'histoire, du Verbe de Dieu, du Fils éternel, il y a quelque chose qui advient. Ici, c'est le moment de l'incarnation, devenu en similitude d'homme. C'est le terme utilisé, par exemple, dans le prologue de Saint Jean, au verset 14. Et le Verbe est devenu chair. Il était dans son éternité, et bien, il prend notre humanité, et à ce moment-là, il entre dans le temps, et quelque chose advient au niveau de l'histoire. Le Verbe est devenu chair. Ou bien, c'est le terme que Paul utilise en Galates, au chapitre 4, verset 4, son fils devenu de la femme, pour dire l'incarnation par la venue dans le sein de Notre-Dame. Ou bien encore en Romains, au chapitre 1, le verset 3, son fils devenu de la race de David selon la chair. De nouveau, c'est le moment de l'incarnation qui est envisagé. Donc, l'importance de ce verbe en similitude d'homme devenu, pour désigner l'incarnation, par son aspect trouvé comme un homme, il s'abaissa lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. Deuxième degré d'abaissement. C'est, non seulement il partage notre commune humanité, mais il va s'abaisser jusqu'à la mort. Et troisième degré d'abaissement, la mort de la croix. Souvenez-vous de l'insistance sur la croix dans la première aux Corinthiens et la deuxième aux Corinthiens déjà. Par exemple, en 2 Corinthiens, au chapitre 13, il était rappelé, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu envers vous. C'était ce paradoxe de la croix, faiblesse mais puissance de Dieu. Eh bien, il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi on voit que l'élévation, alors, du Christ, après son abaissement, est liée à son abaissement. Il n'est pas simplement dit « ensuite ». Non, c'est pourquoi, c'est en raison même de son abaissement, que Dieu l'a élevé. Il élève les humbles, hein. C'est quand même la perspective du Magnificat de Notre-Dame. Pourquoi Dieu le suréleva et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou plie sur les cieux, sur la terre, sous terre, et que toute langue confesse que Seigneur est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Cette insistance sur le nom au-dessus de tout nom, tout genou plie, toute langue, il y a comme une élévation au regard de tous. Le nom au-dessus de tout nom, c'est bien sûr le nom de Jésus, c'est son nom humain, mais on comprend à la fin, comme je le disais, que le nom en question, que l'on vénère avec adoration, pliant le genou et confessé, c'est le nom total. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et vous voyez l'ordre des termes. Seigneur, ça dit ça, sa seigneurie, sa divinité. On était parti, il est l'égal de Dieu de soi, mais il s'est abaissé, et puis il est relevé jusqu'à mériter son titre divin de Seigneur. Et Jésus, son nom humain, Christ, son titre messianique au regard de la foi juive, et cela à la gloire de Dieu le Père. On remonte, et cette gloire remonte jusqu'à Dieu le Père. Vous voyez ce mouvement, je dirais, d'abaissement et puis de remontée. comme on le dit parfois à propos du prologue de Jean, il est venu de Dieu, exitus, sorti, et il retourne à Dieu, reditus. C'est la fin du prologue aussi. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, eh bien lui l'a fait connaître. Et le père de la poterie traduit « amener à le connaître », parce que c'est le terme de « hegeomai », « ouvrir le chemin vers le Père ». C'est le mouvement aussi de l'évangile de Saint Jean, qui est ici présent. Hein? Jésus s'efforce de faire comprendre d'où il vient de Dieu, et puis à un moment donné, il dit où il part, et il va faire comprendre qu'il repart vers le Père. Donc ce beau mouvement de cet hymne aux Philippiens. Et donc, retenez ce point essentiel, c'est que l'hymne vient à l'appui, de manière exemplative, des recommandations d'humilité que Paul prône qui doivent régner dans la communauté. Et c'est en vivant nous-mêmes cette humilité, et qu'avec le Christ, nous entrons aussi, évidemment, dans la joie de son élévation. Non pas de nous-mêmes, mais par grâce de Dieu le Père. Voilà pour ce passage. Le début est traduit par exemple par Hostie, « Lui qui subsistant en forme de Dieu n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu. » Ou bien, dans la manière dont nous le connaissons, parce qu'elle est reprise bien sûr dans le bréviaire, cette belle hymne, « Le Christ Jésus, ayant la condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. » C'est la manière dont on traduit ce début de Ainsi donc, mes bien-aimés, je poursuis le texte, ainsi donc, mes bien-aimés, obéissant comme vous l'avez toujours fait, obéissant, il reprend le terme qu'il vient d'appliquer au Christ, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, il le reprend pour les Philippiens, obéissant comme vous l'avez toujours fait, non seulement lorsque je suis présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut, vous avez dit cette perspective du salut, avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir, son eudokia. Faites tout sans murmure ni raisonnement pour vous montrer irréprochables et candides, enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie. Il y a des arrière-fonds de Deutéronome là, qui sont mis en italique. Cette génération où vous brillez comme des foyers de lumière dans le monde. Observez la parole de vie pour que je puisse me vanter au jour du Christ, assistance, de n'avoir ni couru en vain, ni peiné en vain. Et même si je dois être répandu en libation sur le sacrifice et le service, c'est le terme de liturgie, laïturgia, le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Et vous de même, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi. On voit que la joie dont Paul parle aux Philippiens, ce n'est pas une joie quelconque et superficielle. Même si je dois être répandu en libation sur le sacrifice et le service de votre foi, quand même comme une offrande quasi liturgique là, qui est annoncée de soi-même, bien j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous. Et Paul crée des verbes avec le préfixe « sun » comme souvent, « réjouir avec ». Et vous, réjouissez-vous avec. Je vais un peu plus vite pour avancer, parce que je vois l'heure avancer aussi. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, pour être à mon tour réconforté en apprenant de vos nouvelles. Car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments et se soucie sincèrement de vos affaires. Tous en effet recherchent leur intérêt et non celui de Christ Jésus. Vous savez qu'il, Timothée, a fait ses preuves et que, comme un enfant avec son père, on va reprendre cette appellation familière, dans le début de la lettre à Timothée, d'ailleurs, comme un enfant avec son père, avec moi, il s'est asservi, il s'est rendu esclave. C'est de nouveau le même terme qui revient. Il s'est rendu esclave de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai où j'en suis. J'ai d'ailleurs cette confiance dans le Seigneur que moi-même, je viendrai bientôt. Il repassera, et ça s'est vérifié. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, un autre personnage. De quoi était-il chargé? Eh bien, d'amener à Paul des soutiens matériels que les Philippiens, avec bonté, lui faisaient parvenir. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère et mon collaborateur et compagnon d'armes, que vous avez délégué près de moi pour subvenir à mes besoins, Il avait de vous tous un tel désir, et il était anxieux parce que vous aviez appris qu'il était tombé malade. Donc, Épaphrodite est bien arrivé à Paul, mais là, il s'est senti mal. Et voilà que Paul, maintenant, le renvoie pour assurer les Philippiennes qu'il avait mandatées. Et de fait, il a été malade et bien près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non de lui seulement, mais encore de moi, pour que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de vous l'envoyer pour que sa vue vous remette en joie et que de mon côté je sois moins triste. Accueillez-le donc dans le Seigneur en toute joie. Donc, la joie fait l'objet maintenant d'invitation, pas simplement d'affirmation. En toute joie et ayez de tels hommes en honneur, car c'est à cause de l'œuvre du Christ qu'il a frôlé la mort, risquant sa vie pour supplier au service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Celui qui pouvait se mettre en route, il l'a fait. Après ces nouvelles de Timothée et d'Épaphrodite, au reste, mes frères, chapitre 3, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sûreté. Paul a bien conscience qu'il n'hésite pas à se répéter, mais pour bien faire comprendre. Il ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous les circoncis qui rendons un culte à Dieu en esprit et nous vantons de Christ Jésus, au lieu de nous confier dans la chair, bien que j'aie, moi, sujet de mettre aussi ma confiance dans la chair. On voit se profiler un thème de Galates. Les Galates auprès desquels certains voudraient faire pression pour qu'ils imposent la circoncision à tout nouveau circoncis. Mais est-ce la circoncision de la chair qui importe ou bien quelque chose de plus profond? Eh bien, Paul dit, je pourrais me vanter dans la chair, au sens, non seulement de la circoncision, mais au sens plus global de ma condition. Si quelque autre pense pouvoir se confier dans la chair, je le puis moi davantage. Circoncis, dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, dont le roi était Saül, son prénom, Saul. Hébreu, issu d'Hébreu, pour la loi, pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice légale. Quelle justice va-t-on parler? Irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les estimais comme un détriment à cause du Christ. Oui, bien sûr, j'estime que tout est détriment à cause de la valeur suréminente de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout sacrifié. Et j'estime tout comme immondice, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice à moi, celle dont il a parlé, la justice légale, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. En trois lignes, vous avez le thème principal de la lettre aux Romains. Justice qui s'appuie non sur nos mérites à suivre la loi, mais qui nous est donnée par Dieu, ce que Paul va appeler la justification, et qu'on accueille dans une attitude de foi, la justification par la foi, mais la justice par la foi en Christ. Afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, en me rendant conforme à sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Sentez bien toute cette perspective de se laisser conformer au Christ souffrant et à la mort du Christ. Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été moi-même saisi par Christ Jésus. Frère, je ne compte pas l'avoir encore saisi. Je n'ai qu'une pensée, oubliant ce qui est derrière moi, tendu de tout mon être en avant, je cours droit au but vers le cri que Dieu vers le prix, pardon, que Dieu m'appelle à recevoir là-haut dans le Christ. Cette tension de Paul vers le but et cette insistance sur se laisser saisir par le Christ. Et c'est ça souvent le retournement qui nous est demandé. Nous voudrions saisir les choses, même le Christ. Et il faut accepter de nous laisser saisir par lui, d'abord. J'ai été moi-même saisi par le Christ. Et avec humilité, je ne compte pas l'avoir encore saisi. Mais je tente de tout mon être à me laisser saisir de plus en plus. Nous donc les parfaits. Paul vient de dire au verset 12, non pas que j'ai atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Mais nous les parfaits, à entendre, en voie de perfectionnement, nous qui sommes en train d'être menés à notre achèvement, nous les parfaits, ayons cette pensée, c'est toujours le terme, la disposition globale, ayons cette disposition. Et si, sur quelques points, vous pensez autrement, là-dessus encore, Dieu vous éclairera. Seulement, où que nous soyons arrivés, marchons dans la même ligne. Cet appel à l'unanimité. Comment marcher dans la même ligne? En ayant le même modèle. En l'occurrence, l'apôtre, mais qui n'est lui-même, bien sûr, que le médiateur du modèle qu'est le Christ. Montrez-vous tous, frères, mes imitateurs. Regardez ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup, j'en ai souvent parlé, et maintenant j'en parle en pleurant, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur honte, eux qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur, salut de nouveau, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera nos corps de misère en les conformant à son corps de gloire. Et Paul a dit qu'il soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Bien ici, tout développement. Lui transformera notre corps de misère en le conformant à son corps de gloire, selon la puissance active qui le rend capable même de s'assujettir toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, tellement chéris, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je termine en faisant valoir la force d'un certain nombre de termes dans cette finale, le verset 21. Donc, il transformera notre corps de misère en conformant son corps de gloire. Quand même été parlé du corps spirituel, du corps pneumatique, dans la première aux Corinthiens à propos de la résurrection, corps de gloire. Selon la puissance active, c'est littéralement l'énergie, energeia, qui le rend capable. C'est dynastai, c'est le terme de la dynamis, qui désigne toujours la puissance active de résurrection, notamment par l'esprit, la dynamis, qui le rend capable, même de s'assujettir toutes choses. Souvenez-vous de la première aux Corinthiens, le chapitre 15. Lui qui a mis toutes choses à ses pieds, soumuit, jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds, qu'ils te soient assujettis, psaume 110. Il peut s'assujettir toutes choses, régner sur toutes choses. Et le dernier ennemi qui est capable de s'assujettir, nous disait Paul, c'est la mort. Eh bien, justement, à l'encontre, il y a son corps de gloire et la puissance active qui le rend capable de dominer ainsi toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, tenez bon. Le terme « notre corps de misère », c'est notre corps d'humilité, « tapeinosis ». C'est le même mot que « il s'est abaissé », notre corps d'abaissement, il a dit. Lui qui transformera notre corps de misère, c'est « métaschématité », fera changer de forme. Il avait dit, lui qui a été trouvé en forme d'homme, c'était ce même mot. Il a pris forme d'homme. Etc. Il y a beaucoup de richesse de vocabulaire dans ce dernier passage, en consonance avec d'autres passages polynésiens, mais en consonance notamment, et je vous ai donné une feuille à cet écart que je prendrai brièvement la fois prochaine, notamment en consonance avec le passage de l'hymne aux Philippiens, que nous avons lu en détail, dont tous les termes clés continuent à résonner dans la suite de la lettre. Voilà, le temps est écoulé, nous en restons là pour le moment. Nous terminerons, on prend encore, je dirais, 10 bonnes minutes pour terminer la reprise de quelques thèmes de la lettre aux Philippiens la fois prochaine, et puis nous passerons à la lettre aux Galates dont je vous ai déjà donné les feuilles de route. Merci de votre attention.
Merci à vous.